Bonjour, c'est le septième dimanche que nous ne pouvons pas nous retrouver en église et nous ne savons pas quand cela va être possible. Je me souviens que le 8 mars dernier, au PAM, nous évoquions ce culte avec Paul et Marc Waldman. Nous étions loin d'imaginer ce que nous vivons actuellement. En introduction à ce message, j'ai demandé à Nirine de lire le psaume 103, les versets 8 à 13.
L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Seigneur, nous te remercions pour ton amour qui est si profond, si grand, si large, si solide. Et nous te prions d'être avec chaque personne qui nous écoute en ce moment, et sois aussi avec Anne-Claude qui va poursuivre son message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vais vous partager quelques réflexions sur la parabole qui se trouve dans Luc 15, les versets 11 à 32. Son titre est différent suivant la version de la Bible choisie, mais le titre n'est pas le plus important. Il donne simplement des indications sur ce que nous voulons souligner. On l'appelle la parabole du fils prodigue ou du fils perdu, en relation avec les deux paraboles précédentes qui se trouvent au début de Luc 15, soit la parabole de la brebis perdue et la parabole de la drachme perdue. Jésus raconte ces paraboles en réponse à la remarque des pharisiens et des scribes que nous pouvons lire au verset 2 de Luc 15. « Celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux !» Jésus, qui veut montrer que ce ne sont pas que les pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu, ajoute le personnage du fils aîné. Nous pouvons donc l'appeler la parabole des deux fils. Mais est-ce que le personnage le plus important n'est pas le Père? Dans ces paraboles, on voit que la Trinité se mobilise pour sauver ce qui était perdu. Le Fils ou le bon berger qui cherche sa brebis. Le Saint-Esprit qui fait briller la lumière de la parole pour trouver le pécheur. Et le Père qui, dans son amour, accueille le coupable repentant. On peut dire alors que c'est la parabole du Père aimant ou du Père prodigue. Ce mot ne signifie pas que dépensier, mais aussi généreux, qui donne en abondance. Lisons Luc 15, les versets 11 à 32. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet ramassa tout ce qui lui appartenait et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, Son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et que nous l'avons retrouvé. » Le fils cadet demande sa part d'héritage. Il veut couper les ponts avec son père. Il veut mener sa vie de façon indépendante. Nous pouvons être choqués. Mais est-ce que nous ne sommes pas un peu pareils quand nous prions Dieu pour qu'il nous accorde ses bénédictions et que d'un autre côté, nous voulons nous débrouiller par nous-mêmes sans l'impliquer dans notre vie de tous les jours? Le père fait le partage. Cela m'interpelle. Le père qui, malgré le fait qu'il sait ce que son fils va vivre, accède à sa demande. Est-ce que cela faisait partie de la volonté du père pour son fils? Je ne pense pas. En tant que parents, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Nous ne voulons pas qu'ils aient à faire face à des difficultés. Mais comme le père, nous devons apprendre à les laisser faire leur choix, les aimer d'un amour vrai, de celui qui laisse la liberté. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Est-ce que ce que je vis est dans la volonté de mon père? Non, pas toujours. Parfois, je fais les choses à ma façon. Mais je réalise que parfois aussi, mon père accède à ma demande, même si ce n'est pas ce qu'il veut pour moi. Il m'accorde ce que je lui demande, même si ce n'est pas le meilleur chemin pour moi. Pensons à l'épisode relaté en 1 Samuel 8, quand le peuple demande à Samuel de lui donner un roi pour être comme les autres nations. Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Les versets 6 et 7 de 1 Samuel 8. Dieu veut développer une relation d'amour avec nous et dans son amour, il nous laisse libres. Que nous puissions grandir dans cette relation et toujours plus aligner notre volonté à sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que même si nous ne sommes pas au centre de sa volonté, il reste à nos côtés. Revenons à la parabole. Le fils cadet va mener la grande vie jusqu'au moment où il n'a plus rien. C'est là que la famine survient. Mais cela ne suffit pas pour le faire revenir à son père. Il cherche le secours ailleurs, mais ne trouve que le fond de sa misère. Il n'a plus rien. plus personne pour se raccrocher. Alors il réfléchit, se repent et rentre non pas chez lui, mais chez son père. Il est prêt à n'être qu'un ouvrier, à ne plus faire partie de la famille. Quelqu'un a dit un jour que si on lui avait donné à manger alors qu'il gardait les porcs, cela aurait retardé son retour. Oui, en intervenant dans la vie de quelqu'un sans discerner le plan de Dieu pour lui, on peut interférer avec l'action de Dieu dans sa vie. Pendant tout ce temps, le père attend son fils. Il le guette. Imaginez les commentaires des voisins. Que c'est triste de le voir ainsi. Depuis le temps qu'il devrait avoir compris, son fils l'a oublié. Il ne reviendra jamais. Et puis un jour, alors qu'ils ne font plus trop attention à ce père qui attend, il le voit se mettre à courir. Qu'est-ce qui lui prend? Voilà qu'il se ridiculise maintenant. Il va s'encoubler dans sa tunique. Paul Emmes expliquait que dans la culture du Moyen-Orient, un fils qui est parti ainsi ne peut plus revenir. L'honneur du père a été bafoué. Jamais il ne pourrait pardonner. Mais la grâce et la compassion poussent ce père à aller à la rencontre de son fils. Le père, ému dans ses entrailles, ouvre ses bras d'amour et couvre son fils de baisers. Rappelez-vous juste d'une chose, d'où vient le fils? Il gardait les porcs. Le père lui donne alors un nouvel habit qui remplace ses haillons, l'habit de justice qui lui redonne sa place de fils. Il lui donne une bague ou l'anneau qui représente l'alliance et des sandales qui sont le signe de l'homme libre. Les esclaves étaient pieds nus. Le père lui fait préparer un festin, amener le veau que nous avons engraissé. La preuve que le père attendait ce moment. Quelle joie! C'est la fête! Mais quelqu'un n'est pas de la fête, et pour cause. Il est occupé à travailler dans les champs de son père. Quand le fils aîné, car c'est de lui dont il s'agit, apprend ce qui se passe, il se met en colère et ne veut pas entrer. Son père vient à sa rencontre, tout comme il l'a fait avec le fils cadet. Mais le fils aîné, qui est parfait, ne veut pas manger en compagnie de son frère pêcheur. Rappelez-vous la remarque des chefs religieux. Celui-ci reçoit des pêcheurs et mange avec eux. Ce fils est davantage dans le faire que dans l'être. Il privilégie le service au détriment de la relation avec son père. D'ailleurs, celui-ci lui rappelle ce qui est essentiel. « Mon enfant, tu es constamment avec moi. » Nous pouvons le lire au verset 31. En conclusion, nous pouvons dire que ces deux fils, bien que différents, se rejoignent sur certains points. Ils sont tous deux dans le manque de reconnaissance. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont et ne reconnaissent pas leur père pour qui il est vraiment. Ils ont tous les deux le même père, mais leur relation avec lui est faussée par l'image différente qu'ils ont de lui. Le fils cadet a l'image d'un père qui lui donne tout. Il revendique ses droits. Le fils aîné a l'image d'un père intransigeant. Il déplore le manque de récompense pour ses bonnes œuvres. Aucun des deux ne connaît la grâce. La relation avec leur père est basée sur le mérite. Le fils cadet, après ce qu'il a fait, reconnaît qu'il ne mérite plus d'être considéré comme fils. Le fils aîné, après tout ce qu'il a fait, mériterait une récompense. Mais ce qui fait toute la différence, c'est que le fils cadet s'est ouvert à la grâce. Il a accepté ce don qui vient de son père. Il est réhabilité et retrouve sa place de fils. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Romains 8, verset 15. Ma prière, c'est que vous soyez assurés que votre Père vous voit dans ce que vous vivez. Il vient à votre rencontre et vous entoure de ses bras d'amour. Soyez bénis, bonne semaine à chacune et à chacun.